Une vie, une œuvre, Ronit Elkabetz, 1964, Beersheba, 2016, Tel Aviv. C'est dans une famille marocaine très religieuse que naît Ronit Elkabetz. Sa mère est coiffeuse, son père travaille pour la poste israélienne en tant que financier. Elle s'intéresse au stylisme et mannequin, puis très vite rencontre le succès comme actrice avec Le Prédestiné. Partant pour Paris, elle postule pour un stage chez Ariane Nouchkin. Ce sera un stage de femme de ménage. Mais c'est bien en tant que star qu'elle continue à être sollicitée et en 2001 reçoit le prix de la meilleure actrice au Festival du film de Thessalonique. Son histoire, c'est Israël. Et la recherche de ses racines passe par son apprivoisement de la caméra. Avec son frère Shlomi, elle co-réalise « Prendre femme ». C'est le début d'une trilogie qui s'achèvera avec le procès de Viviane Amsalem. En France, Fanny Ardant et Brigitte Sy font appel à elle comme comédienne. Elle prépare un film sur Maria Callas quand la lumière s'éteint pour elle. Johanna Bedeau signe, avec Nathalie Battus, Une vie, une œuvre, Ronit Elkabetz.
אני גרה בכפר אלפונדוק. יש לי 11 ילדים, שישה מהם בני פחות מ-15. אני עובדת בניקיון בתים בג'לג'וליה ובכפר קאסם. בעלי לא עובד. הבן שלי סבר, בן 19, ובת היבה, בת 17, סובלים מפיגור שכלי וזקוקים להשגחה. אני חייבת לעבוד, כי אני אפרנסת היחידה של המשפחה הגדולה שלי.
D'abord, elle ouvre le film. C'est un film choral. Ce sera un petit peu comme s'il y avait un chœur grec et qu'on voyait un certain nombre de personnages traverser l'écran. Et Ronit est la première d'entre elles. Et elle raconte, elle est une femme, elle est une palestinienne qui va travailler en Israël et qui raconte quand elle a dû traverser la frontière. La frontière était fermée à un moment donné, donc elle cherche un autre point de passage. Et comment son dialogue impossible se noue avec les militaires israéliens. Et elle joue cette femme audacieuse, engagée, qui veut pas trembler, qui veut pas avoir peur, qui veut pas se soumettre, qui cherche pas à provoquer, mais qui refuse de se soumettre.
J'étais très calée au type de soute. On m'a dit, at shakranet, at charmante, at
bazama. C'est une femme debout. C'est une femme qui renvoie l'insulte en lui disant, et toi, ça te plairait qu'on traite ta mère de pute.
T'as besoin de quelqu'un qui est calée à l'image de ta mère et de ta sœur. Hein? Naïm.
Le film n'est pas une invention. Le film reprend mot à mot des témoignages réels, des témoignages qui existent. Donc ce sont des paroles de Palestiniens, de femmes palestiniennes, et c'est interprété par des acteurs israéliens. L'idée, c'était de ne pas être dans une grammaire documentaire et de jouer vraiment sur la frontière entre le documentaire et la fiction.
Un autre garde s'est joint à lui en frappant lui aussi. D'origine éthiopienne, petit et gros. Il m'a donné des coups de pied. Je suis tombée par terre. Après ma chute, il m'a piétinée. Deux gardes m'ont battue pendant un quart d'heure environ. Puis ils sont montés dans leur jeep, me laissant là épuisée, meurtrie. À l'hôpital, on m'a fait des examens, des radios. J'ai été hospitalisée pendant 2 heures. Et puis on a décidé de m'envoyer à Rafidia, à Naplouse, pour la suite du traitement. C'est un autre hôpital. Au bout 1 heure et demie, les médecins m'ont dit que mon état était stable. J'avais des contusions, mais pas de fracture. Dieu merci. Mais voilà. Je suis rentrée à la maison. Je suis rentrée chez moi.
Moi, ce qui m'a beaucoup frappée, en tout cas chez Ronit, c'est une forme de, un sens de liberté. C'est-à-dire que je pense que le conflit, pour Ronit, c'est pas tant le conflit aux Palestiniens que le conflit à l'autre. Le conflit à l'autre et le rapport à une forme de domination. Et je pense qu'une des phrases qui peut caractériser Ronit, c'est juste « Et alors ?» C'est pas parce que t'as le pouvoir, c'est pas parce que t'as le fusil, c'est pas parce que t'as la loi, c'est pas parce que... Voilà. Et alors ? Et dans ce « Et alors ?», tout peut s'engouffrer.
Ronit Elkabetz, une actrice à vif. Johanna Bedeau, Nathalie Battus.
peut-être que physiquement, la première fois qu'on a vraiment discuté, c'était avec son film « Les 7 jours » qui était à Cannes.
Sandrine Brouwer, productrice.
Et c'était joyeux, on était très contents. Et je voyais Ronit, en fait, qui n'était pas contente. Mais ce n'est pas qu'elle n'était pas contente parce que, je ne sais pas, parce que son côté diva aurait trouvé qu'elle n'avait pas été traitée comme il faut. Le pas contente, c'est juste de dire, c'était plus de dire, est-ce qu'on en a fait assez ? C'est-à-dire que je pense qu'elle a tellement de choses à dire, mais tellement de questions à se poser, tellement de nuances à aller chercher, tellement de problèmes à gratter, qu'elle avait toujours, je pense, ce truc de se dire, est-ce qu'on est allé assez loin ? Est-ce qu'on ne peut pas en faire plus ? Est-ce que vraiment on a expliqué ce qu'on avait à expliquer ?
J'oublie tout le temps qu'elle est morte, en fait. J'oublie tout le temps. Et quand je pense à elle, je fais « Ah merde, c'est vrai ». Et ça me traumatise à chaque fois que je pense qu'elle n'est plus là. Quoi.
Brigitte Sy, actrice et réalisatrice.
Et pourtant, j'ai perdu beaucoup de gens dans ma vie. Et je sais qu'ils sont morts. Et Ronit, à chaque fois, je suis obligée de me dire « Ah mais non, elle n'est plus là ». C'est-à-dire que ça me fait à chaque fois un truc, quoi. Que je ne veux pas admettre qu'elle soit plus là. Donc c'est ça qui me reste d'elle, c'est qu'elle n'est pas. J'arrive pas à comprendre qu'elle n'est plus là.
Je vais vous raconter une petite histoire. On était donc avec Get, le procès de Vianam Salem. On a eu la joie de représenter Israël pour le meilleur film étranger aux Oscars et aussi aux Golden Globes. Et donc, on est allés ensemble à la cérémonie des Golden Globes. C'était très joyeux, très drôle. On avait loué une maison, on était tous ensemble. On avait fait tout comme il faut, avec la limousine. Voilà. Et en fait, j'ai découvert quelque chose que je ne savais pas à ce moment-là, alors que ça faisait déjà quand même quelques années que je travaillais avec Ronit, c'est qu'elle avait inventé un personnage. Et que ce personnage était une projection, une synthèse de Vianam Salem, de Ronit El-Kabbès, de sa mère, de la femme marocaine, des Françaises, des Français du décret Crémieux qui vivaient en Israël, mais qui se sentaient justement oppressées par la communauté ashkénaze. Et elle avait un dialogue intérieur entre elle, Ronit El-Kabbès, et cette femme-là. Et elle jouait les deux femmes, avec Shlomi El-Kabbès qui était là aussi. Donc on était dans cette espèce de limousine complètement indécente. Et donc on est pris dans un embouteillage, ce qui est le défilé de toutes les voitures qui vont déposer les invités au Golden Globes. Donc on est bloqué, on avance à 1 à l'heure à peu près. Dans ce moment-là, on est un peu tendu quand même. On se demande est-ce que oui ou non, on va avoir la chance, on va décrocher la timbale. Et donc, dans ce moment-là, Ronit nous a livré son personnage. Cette femme-là, ce second moi qu'elle nous a révélé, je crois que c'est ça le vrai Ronit. C'est-à-dire quelqu'un qui est plein d'humour, qui est capable d'opérer la synthèse entre la France qu'elle a tellement aimée et tellement adoptée concrètement. Entre cette juive séfarade, cette israélienne d'origine séfarade, mais qui refuse d'être enfermée dans ce carcan et qui donc se moque de ce carcan. Voilà, elle est juste dans cette espèce de possibilité. Elle est, pour moi, hein, Ronit était vraiment cette possibilité d'un personnage qui peut se diffracter. De la même manière que dans le guet, le procès de Vianam Salem, il y a 10, 12, 15 témoins qui viennent raconter la communauté. Je pense que Ronit, en elle-même, elle est ces 12, 15 personnes qui sont l'artiste engagé, la maman tellement amoureuse de ses enfants, la sœur tellement aimante, la fille quand même extrêmement loyale à l'héritage de ses parents, cette amie complètement fantasque, cette artiste déterminée et insolente. Voilà.
Elle avait énormément de projets en tête, même les dernières ou la dernière année de sa vie, elle avait plusieurs projets. Je me souviens qu'elle m'a parlé d'un quatrième volet de...
Ariel Schweitzer, historien du cinéma.
Qui était déjà la trilogie autour du personnage de Vivian Salem. Elle avait envie, avec Shlomi, d'écrire un quatrième volet. Et bien sûr, il y avait aussi ce projet sur Maria Callas, qu'elle rêvait d'incarner. Maria Callas, qui avait aussi une histoire personnelle extrêmement dramatique ou mélodramatique. Et je pense que Ronit était attiré aussi par cet aspect de la vie de Maria Callas. Donc, la dernière année de sa vie, elle a travaillé sur plusieurs projets. Il y a cette série aussi qui a été produite Trépalium par Canal+. Donc, elle n'arrêtait pas Et en même temps, elle était comblée par sa vie de mère. Cette grossesse tardive a été critiquée en Israël. Parce que en Israël, il faut avoir des enfants tôt. Et puis, le fait que Ronit, qui était déjà d'une notoriété publique, n'affichait pas ça comme la grande priorité de sa vie. Il y a des voix qui s'élevaient en Israël pour dire bah, « c'est pas normal », etc. Mais Ronit s'en fichait.
Qu'est-ce que tu vas chercher toi? Qu'est-ce que tu vas faire?
Viviane,
rentre. On oublie tout ce qui s'est passé, Viviane. Les enfants aussi veulent que tu reviennes. Rentre à la maison, Viviane. On recommence tout à zéro.
Fouille Tova. Ingrat.
Voilà, elle oui. Recommence.
Oui, je recommence. Oui, je recommence. Ma, c'est ma chère de l'assaut, la chniste à milim, chez l'okara, bechèque, bechèque, mitaha, tachagora, chez Afrod Loïchma. Avala nishomat.
Cruelté, ou l'homme à cloum.
Podara, ben, mais c'est impossible de parler avec cette femme. Dès que j'ouvre la bouche, elle me saute dessus.
Elisha, ne me cherche pas.
Toi non plus, Viviane. Toi non plus, Viviane. Tu veux parler avec moi? Rentre à la maison.
Non, je ne rentrerai plus. Ça y est, c'est fini.
C'est toi qui vas perdre, Viviane. C'est toi qui vas perdre.
אנחנו נראה מי יפסיד. אנחנו נראה. Tu veux me retenir par la force? Essaye.
L'un des cinéastes avec lesquels elle a travaillé, qui s'appelle Joseph Dadun, elle a réalisé avec lui un film qui s'appelle Sion, qui a défini Ronit El-Kabetz comme une sorte de sorcière. Et elle a un visage, une beauté magnétique. Il y a quelque chose d'absolument... On ne peut pas retirer les yeux du visage de Ronit El-Kabetz. Elle donne systématiquement l'impression de nous observer, de pénétrer notre intimité avec son regard. Et dès l'âge de 15-16 ans, elle a commencé une carrière de mannequin. Et c'est là, en fait, qu'elle a été découverte par le cinéaste israélien Danny Waxman, qui lui a proposé son premier rôle au cinéma en 1989, le film Le Prédestiné. Et Ronit El-Kabetz raconte souvent cette histoire, comment elle a découvert le monde du cinéma. En fait, on lui a dit, voilà, on te propose un rôle dans un feature.
On m'a appelé pour une audition, pour, voilà, je pensais qu'il s'agit d'un pub, je suis allée. On m'a parlé d'un grand rabat qui tombe amoureux, d'un Lilith. Et j'ai demandé pourquoi ils font un pub sur un grand rabat qui tombe amoureux d'un Lilith. Parce que moi, je viens d'une famille très, très religieuse et ça me paraît très bizarre. On m'a dit non. C'est pas un pub, c'est un feature. Bah, j'ai demandé qu'est-ce que c'est un feature. On m'a dit c'est un long métrage. Et finalement, on m'a dit voilà, on voit bien que vous ne comprenez pas. Prenez les papiers et revenez demain. C'est tout. Le lendemain, je suis revenue, je fais la queue de toutes les actrices en Israël. J'ai tremblé partout parce que j'ai bien compris qu'il s'agit d'un film, enfin, et pas d'un pub. Et voilà, quand je suis rentrée dans la salle, je raconte toujours que je suis devenue comme la divine qui est rentrée en moi. J'étais, pour la première fois de ma vie, j'étais calme, tout simplement. Et voilà, je fais l'audition, je suis partie sous la pluie, poids nus, pointue. Et c'est comme ça, voilà, le lendemain, on m'a dit, c'est à vous. Et un chemin est ouvert pour moi, un grand, grand, grand chemin que je remercie. Chaque matin, chaque nuit, parce que c'est quelque chose.
Et c'est un film où elle joue aux côtés de celui qui est devenu son premier compagnon, Shuli Rand, qui joue à ses côtés aussi dans le deuxième long métrage qu'elle a tourné, qui s'appelle Eddie King, de Guy Didard. Eddie King, qui est un projet absolument passionnant, c'est un film qui n'est pas connu en France, mais c'est une sorte de thriller politique extrêmement stylisé. C'est un film qui a un accent, je dirais, godardien, où Ronit El-Kabetz se distingue dans un rôle extrêmement sensuel aussi. Et je pense que ces films témoignent de l'audace de Ronit El-Kabetz et le fait qu'une femme née dans un environnement, je dirais, plus ou moins défavorisé, à 18 ans, se lance dans le cinéma et choisit comme deuxième projet un film aussi radical, esthétiquement, ça témoigne aussi de ce goût de Ronit El-Kabetz pour des projets inhabituels. Et ce goût de la prise de risque, je pense qu'il a caractérisé toute la carrière de Ronit El-Kabetz pratiquement jusqu'à la fin.
Pour moi, une femme qui fait un film, déjà la partie est politique. Il y avait comme ça une histoire mystère autour de Michal Batadam. La question qui a déroulé tout le temps, on a dit, mais comment elle arrive à avoir l'argent pour le film? Comment? Et personne n'a parlé du film ou le contenu ou quoi, mais comment, à chaque année, on a dit, c'est-à-dire les gens ont dit, ça a été tellement, tellement incroyable qu'il y a une femme parmi les hommes qui fait des films, qu'on n'a même pas parlé de qualité et de rien. Et on a dit, mais comment elle arrive chaque année ou chaque deux ans, trois ans? Et tout le monde a dit, elle a des forces, elle a des forces. Et bien sûr, elle a des forces pour comment elle peut arriver à convaincre toujours les hommes et les hommes et les hommes, parce qu'il y a que des hommes partout aujourd'hui, pour, voilà, et quand, tu veux quand je continue, que tu me demandes.
C'est comme un rêve, Ronit. C'est un rêve, déjà physiquement, parce que c'est physiquement, c'était une beauté absolue. Et puis, elle a cette espèce d'allure rare, elle est royale, Ronit. C'est comme une reine qui apparaît, qui sort de son château et qui vous apparaît. C'est comme une apparition. Mais ça m'a fait ça quand je l'ai vu au cinéma. Hein. La première fois que je l'ai vu au cinéma dans le film de Keren Yedaya, c'était alors que le rôle n'était pourtant pas un rôle de reine. Hein. C'était un rôle de prostituée. Elle s'était abîmée les dents. Elle avait pris 10 kilos et tout ça. C'était pas une image royale pour le coup. Mais son être, là, apparaissait derrière l'image de ce personnage, déjà très visible, d'une personne étonnante et rare et exceptionnelle, ouais.
Là, ça suffit!
Non!
Mon chéri, laisse-moi. Je te revois demain matin.
Non!
Je te revois demain.
Non!
Allez, rentre à la maison, chérie.
Non! Non! Non!
Je te revois demain matin. Lâche-moi.
Keren Yedaya, réalisatrice.
Première fois qu'on s'est rencontré, moi je le reconnais très bien parce qu'elle était déjà un gros star en Israël. Moi j'avais 28 années, je pense, ou 29, ou quelque chose comme ça. Et je suis quitté Israël pour un an et demi pour habiter à Paris et faire un court métrage à Paris. Et elle a déjà habité à Paris pour quelques années. Et on a eu une amie qui connaît moi et elle, qui tout le temps m'a dit, écoute, il faut que tu racontes elle. Elle a dit aussi à elle, il faut que tu racontes, tu peux être des bonnes amies. Et tout le temps, on a dit, oui, peut-être, peut-être, on a fait comme ça. Jusqu'à il y avait un moment qui vraiment j'ai été un peu déprimée parce que j'ai été un peu seule à Paris et j'ai dit ok allez je vais appeler Ronit, on va voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Et je l'ai appelé et elle m'a dit waouh, pourquoi tu m'as pas appelé avant, parce que demain je quitte pour reviens en Israël. So we missed each other, in fact, for a long time. C'est dommage. Et les dernières nuits de Ronit à Paris, on a fait un rendez-vous dans un café Les Chiens Noirs à côté République. Et on a commencé à 9h le soir. Et après les 2 o'clock, 2 heures le mat, elle nous dit, écoute, mademoiselle, s'il vous plaît, on vous ferme. Alors, Oui, oui, on est assis pour des heures et on a tombé amoureuse. On a parlé de cinéma et de nous et des femmes et de tout et on a vraiment tombé amoureuse. Et j'ai dit, quelquefois j'ai dit que les racontes de moi et Ronit, pour moi, je pense aussi pour elle, c'était comme tomber amoureuse d'une femme et un homme. C'était vraiment tomber amoureuse d'un ennui. On a dit, on est la meilleure amie, on va travailler ensemble. Et on s'est raconté, après 2 heures le mat, on s'est parti chez moi, parce qu'on ne pouvait pas laisser. Alors on a resté chez moi jusqu'à le soleil est venu. C'était une longue nuit, très longue. Et on s'est raconté, je l'ai rencontré, écoute, j'ai écrit à Paris un scénario, mon premier long métrage. Et c'est sur une femme qui est dans la prostitution et prostitute. Et je le raconte et j'ai jamais pensé qu'il pouvait faire ça parce qu'il était très très jeune, il était 38, il était aussi belle, trop belle. Et pour moi, dans le scénario, c'est écrit une femme qui est 45, qui on peut vraiment voir les âges. Quand je l'ai raconté l'histoire, elle dit « Ok, c'est moi, Ruti, c'est moi ». Et moi, je dis « Quoi? Non, non, c'est pas possible, t'es trop belle, t'es trop jeune, c'est pas pour toi ». Elle dit « Écoute, donnez-moi, c'est quoi le tournage ?» Elle dit « Ah, on n'a pas d'argent, mais je pense dans un an, ça va aller, dans un an, je vais pas être belle, donnez-moi un an ». Et voilà, c'est les premières rencontres. Depuis cette nuit, on n'a pas... We didn't separate. Elle était mon meilleur ami, oui. Depuis cette nuit.
Oh.
Il y a un cadre là-bas que je pense aussi moi et aussi elle. C'est le cadre qu'on aime le plus dans le film. Et c'est le cadre où on voit les fesses d'elle. Quand elle est assise sur la sofa et Dana, or, elle va pour faire le lit pour elle. So she need to stand up, debout et assis. Et quand elle debout et assis, she have only underwear, et le dessous. Et on voit vraiment les fesses, on dit fesses, S. Très très gros dans la frame, dans la cadre, avec tous les défauts. Et on est les deux amoureuses de cet cadre.
C'est quoi vos meilleurs souvenirs avec elle?
Ah. C'est triste qu'elle n'est pas avec nous. J'ai beaucoup de... Tu vois, c'est pas... C'est triste que beaucoup de souvenirs, c'est de la fin. La fin est très, très, très dure. Elle a mourir, souffrir beaucoup, beaucoup. Les années dernières étaient très, très dures. Et vraiment souffrir physiquement, c'était très mal et très dur. Alors, quelquefois, je rappelais ça. Et j'ai rappelé que je suis très triste. J'ai rappelé comment on a imaginé qu'on va continuer à travailler, faire des films quand on est 80. And it will be so funny and for getting older together. Être vieille ensemble. Et ouais. Ouais. Elle a été quelque chose. Et moi, tout le temps, j'ai dit, elle est très... les plus belles femmes dans le monde, mais aussi the most funny. She was so funny. It's like, really, she was... c'est dommage, parce que comme une comédienne, on n'est pas beaucoup voir elle dans la comédie. Her sense of humor was nuts. She had huge... She used to speak a lot and very fast and eat fast with the hand and eat a lot. She was a lot of passion, you know, to food, to make food, to eat, to very speed all the time. And tell you funny stories about men and about politics and about, you know, so funny. So, ouais. Mais oui, mais je rappelle peut-être à moi avant elle à mourir. Elle m'a dit, je sens que je suis libre de ça. Elle vous criait ça, elle vous sentir pas malade. Mais, ouais. Ouais.
Je pense que Ronit El-Kabetz cherchait les contraintes, cherchait la difficulté. Elle ne voulait pas que les choses soient tracées d'avance. Donc, elle est allée dans un pays où personne ne la connaissait, mais dont elle admirait la culture, pour tenter sa chance. Et puis, elle a entendu parler d'Ariane Mnouchkine et elle est allée la rencontrer. Et en fait, c'était une rencontre absolument paradoxale entre des femmes, des personnalités extrêmement fortes. Au début, Ronit était marginalisée et on lui a confié, comme Ariane Mnouchkine a l'habitude de faire, des rôles de cuisinière et des voilà, elle faisait ça.
Oui, je me souviens de cette époque parce qu'on m'a appelé du théâtre en Israël. Je me souviens, on m'a proposé, viens faire le Cléopâtre, viens faire Lady Macbeth. J'ai dit non, j'essuie des verres et je nettoie et je vais faire les bénis, des petits gâteaux comme ça et j'apprends.
Et en fait, Ronit El-Kabetz n'avait pas la patience d'attendre. Donc au bout de quelques mois avec Ariane Mnouchkine, elle a décidé de monter sur scène par ses propres moyens, d'une manière quasi indépendante, en mettant en scène cette pièce dédiée à Martha Graham, qui a été montrée donc, au Festival d'Avignon. Et puis, à partir de ce moment-là, elle a commencé une sorte d'entraide à la fois en Israël et en France. Les portes en France se sont ouvertes progressivement grâce au succès de ces films israéliens, notamment au Festival de Cannes, trois films, Mon trésor de Keren Yedaya 2004, qui a obtenu la caméra d'or cette même année, et puis La visite de la fanfare en 2007 d'Eran Kollerin, grand succès critique et public en France et en Israël. Et puis, troisième film qui a fait démarrer la carrière de Ronit El-Kabetz en France, c'est bien sûr Mariage tardif de Dover Kojashvili, 2000 ans. Et grâce à cette renommée d'actrice, elle a pu financer ses propres films en tant que réalisatrice.
Moi, je me suis grandie avec ma grand-mère qui parlait que l'arabe. Mon père a refusé toute sa vie à parler français parce qu'il s'est considéré comme un sioniste. Il est arrivé dans la nouvelle pays, il voulait apprendre l'hébreu, parler l'hébreu. Il connaît bien l'hébreu, il a enseigné l'hébreu de la Bible, en effet, en Maroc. Il voulait parler hébreu. Ma mère, c'était difficile pour elle, ça lui a pris du temps. Et quand je me trouve avec ce désir d'arriver en France, je me trouve pas avec cette langue, la langue de mes parents. Et là, je me trouve en France, incapable de parler même pas un mot. Et en plus, je suis arrivée ici avec ce rêve d'incarner ma vie comme actrice aussi. C'est-à-dire continuer ici, en France, ce que j'ai déjà commencé en Israël. Et je ne pouvais pas, parce que voilà, la force de notre métier, c'est les paroles, le mot, la possibilité de parler. Et je ne pouvais pas parler. Mais quand même, c'est un grand, grand, je crois, grand cadeau que je me suis offert à moi-même de recommencer ma vie à zéro. Aussi, y inclut l'idée que je ne parle pas la langue. Et ça m'a permis quand même de grandir doucement, revenir un peu à moi-même. Il fallait que j'apprenne à marcher. Et du coup, j'ai commencé à apprendre sur moi-même à travers mes yeux et pas à travers les yeux des autres. Pendant la première année, je ne parlais pas du tout, j'avais peur d'ouvrir ma bouche. Et quand même, je veux jouer ici. Je commençais chez Ariane Mnouchkine, nettoyer. Et ça m'a permis, voilà, doucement à avancer et apprendre.
Elle m'avait raconté ses débuts.
Fanny Ardant.
J'aimais bien les débuts de Rony, tu vois, c'est les gens avec des volontés irréductibles, là au Théâtre du Soleil, tout ça. J'avais été très épatée par tout ce qu'elle me racontait. J'aime beaucoup les fortes personnalités. J'ai jamais eu peur des fortes personnalités. Et ce dont je me souviens avec... c'était son humanité. Elle était très comme une actrice doit être, c'est-à-dire qu'elle voulait se faire bien coiffer, bien maquiller, bien habiller. Elle pouvait râler quand ça n'allait pas, dans des conditions difficiles. Mais elle était disponible. Je n'ai pas le souvenir de quelqu'un qui était grave. Je pense qu'elle faisait les choses sérieuses avec sérieux, mais qu'elle était gaie, on riait. Voilà, parce que c'est des choses comme ça. Puis elle parlait des hommes, elle parlait de l'amour. Quand elle me voyait très malheureuse, elle me disait que j'étais stupide d'être malheureuse à cause d'un homme comme ça. Donc, vous voyez, j'avais l'impression que je la verrais toujours. Que je la verrais toujours.
Qu'est-ce qu'elle ressent, Rony Telkabetz, face à cette histoire? L'histoire de votre premier film, Sandressant. Qu'est-ce qu'elle donne au personnage de Judith?
Elle donnait quelque chose de sauvage. Elle est rentrée dans ce film sans aucun a priori. Elle était sauvage. Elle était tragique. Je me souviens que quand je lui avais dit, quand elle sait que ça, elle ne peut pas rentrer dans la maison de la famille ennemie, elle se met à hurler. Eh bien, j'avais pas dû lui demander de se mettre dans un état émotionnel. Elle l'avait comme ça. Je ne sais pas pourquoi il y a des actrices qui sont tout de suite dans la zone dangereuse, c'est-à-dire dans une zone où on peut se perdre, qui ne s'épargne pas. Elle prenait des risques. Je me rappelle qu'il y avait une scène avec des loups. Elle avait peur de certaines choses. Ranit, je me rappelle, elle avait peur des couteaux. Elle avait peur des chiens. Elle avait peur des chevaux. Elle avait peur des loups. Je me rappelle que pour la scène finale des loups, moi je venais les voir, ces loups, parce que c'était un chef de meute hongrois. Il m'avait dit, prenez l'habitude d'aller les voir tous les soirs. Et donc, moi j'avais toujours une passion des loups, leur regard. Il m'avait appris comment présenter ma main pour qu'ils prennent la viande. Et il m'avait dit, un loup n'est jamais dangereux quand il n'a pas faim. Et donc, il y avait cette fameuse scène où les loups devaient sortir de la maison. Et Renit, assise sur son siège millénaire, elle me dit, non Fanny, je ne peux pas. Et elle m'avait dit, je veux bien si tu restes sur la scène. Je lui ai dit, mais comment je peux rester? Et alors, je me rappelle que j'étais habillée en noir et je m'étais allongée dans l'ombre portée. On ne le voit pas quand on voit le film. Mais j'étais là, je lui avais promis que je la protégerais. Alors je voyais les loups qui arrivaient près de moi, mais comme ils avaient reconnu mon odeur depuis des jours et qu'ils n'avaient pas faim. Moi, c'était toujours cette chose comme une sœur que j'aurais voulu protéger. Puis après, elle me disait des choses comme moi, qu'elle travaillait surtout allongée. Et moi, je trouvais que les orientaux ont raison, on s'allonge pour penser. Des détails, vous voyez? Des détails.
Vous avez l'impression comme ça, parfois, d'avoir des choses en commun avec elle?
Oui. Oui. Le côté... Vous savez, ce côté où on est très vulnérable, mais on ne le montre pas. Que une sorte de humour en désespoir de cause. Et ça, ça me touchait. Et que, par exemple, pour des besoins du tournage, nous n'étions pas dans les mêmes maisons. Moi, j'habitais chez l'habitant, dans un village où il n'y avait ni l'eau courante, ni rien. Et on se voyait le matin de très bonne heure. Et ma joie, c'était de rentrer dans le maquillage. Parce que je savais qu'il y aurait plein de complications, des difficultés, des mésententes. Puis moi, je suis de nature nerveuse. Donc même quand je m'énervais pour la lenteur, ou quand, parce qu'à un moment donné, il devait être absolument là sur un quai, alors que le train ne passerait qu'une fois par jour et qu'il fallait absolument pas rater le passage de ce train. Et j'avais crié comme une démente. Et je le vois encore, Ronit, sortant du maquillage, pas avec sa ceinture bouclée, mais elle jouait le jeu. Elle comprenait que c'était mon premier film, que c'était très compliqué parce que très peu de moyens. Et ça, j'oublierai jamais.
This is the park. It does not look like a park, but it's a park. You have to imagine. You see? This is the grass. And there, it's where the children play. And this? This is the sea. Tell me, Taufik, how does it feel? I mean, to do music, to have the orchestra, how does it feel?
Well,
to have all the people waiting for you, all the eyes for you, and, you know...
Ronit Elkabetz est né à Be'er Sheva en 1964. Alors, il faut expliquer que Be'er Sheva, à l'époque, était une petite ville de développement au sud d'Israël, où le gouvernement israélien, depuis les années 50, a pris l'habitude d'envoyer les nouveaux immigrants. Une ville qui, pendant des années, avait la réputation d'une ville défavorisée, marginalisée sur le plan de l'éducation, sur le plan économique, une ville pratiquement de sous-développement. Elle est devenue une sorte de symbole de la discrimination sociale envers la population séfarade en Israël. Donc Ronit vient de là. Mais ses parents n'ont pas envie de s'enfermer dans ce genre de stéréotypes et ils décident de partir quand Ronit a 3 ou 4 ans. Ils partent dans le nord d'Israël, à côté de la ville de Haïfa. C'est l'une des quartiers périphériques de la ville de Haïfa. Et Ronit Elkabetz passe son adolescence là-bas. On est encore loin du centre, qui était à cette époque la ville de Tel Aviv, le centre économique et culturel du pays, aussi le centre du cinéma israélien, parce que pratiquement tous les films israéliens ont été tournés à Tel Aviv. Et c'est pas par hasard que ces films les plus importants se déroulent en périphérie. Si je parle d'un film comme « Mariage tardif », qui se déroule dans la ville de Or Yehuda, qui est en fait une sorte de bastion de la communauté géorgienne en Israël. Si je parle de la visite de la fanfare, qui se déroule au sud d'Israël, dans les déserts du Negev, dans une ville imaginaire qui s'appelle Bet HaTikva. Ou si c'est la trilogie de Ronit et Shlomi Elkabetz, donc Prendre femme, Les sept jours et Le procès de Vivien Amsalem, la trilogie qui commence dans cette petite ville, ces quartiers près de Haïfa, où Ronit et Shlomi Elkabetz ont grandi. Et bien évidemment, cette trilogie est inspirée par leur propre histoire, par l'histoire de leur mère. Donc, elle porte à la fois cette dimension combative, sociale et féministe, mais c'est aussi un changement extrêmement important parce que pour la première fois, le cinéma israélien découvre la périphérie. Il découvre la variété culturelle, la diversité culturelle qui représente Israël. Et c'est aussi un moyen de reconnaître, de réhabiliter, de donner une place à des traditions et à des communautés qui, jusqu'alors, n'avaient absolument pas le droit de citer dans le cinéma israélien.
It looks like the most important thing in the world.
Oh, the most important thing in the world is fishing.
What? Fishing?
Yes.
Oh, no.
Yes.
Oh, it's so boring.
No, it's not boring.
Yes, what? To sit all days, you know, like that, maybe 4 hours until you catch something?
No, it's not boring at all. It's the sound of water and waves and distant children playing on the beach and the sound of the bite falling in the water. In early hours at sea, you can hear the whole world like symphony.
C'est sûr que quand on a préparé et qu'on a eu ces discussions entre elle, Shlomi et moi,
Jeanne Lapoiry, chef opératrice de l'image,
elle était plus dans la position de la réalisatrice et que sur le plateau, elle était dans les deux. Mais quand c'est elle qui était devant la caméra, tout d'un coup, c'est marrant parce qu'elle... Elle voulait vraiment maîtriser son image à certains endroits, mais pas surtout. Il y a des choses, elle s'en fichait complètement. Mais elle, ses deux obsessions, c'était les cheveux. Jamais vraiment compris pourquoi, d'ailleurs. Et le visage, c'est-à-dire qu'elle voulait être très blanche, quoi. Ça, c'est, et ça, je savais d'avance, parce qu'on me l'avait déjà dit sur des tournages d'avant. Je savais qu'elle allait me demander ça. Et donc, ils me l'ont demandé, effectivement, et que des fois, elle regardait en combo et trouvait que c'était pas assez. Donc, on a. Mais bon, de toute façon, toutes les comédiennes, à un moment, elles ont des exigences. Je pense que Ronit est plus dure avec, et en plus, elle est encouragée par Shlomi aussi. Enfin, Shlomi, le côté diva, iconique, comme ça, de sa sœur, ça lui plaît, quoi. Donc, il est aussi là pour l'encourager, quoi. Il va pas la retenir, alors que sur d'autres films, là, nos autres réalisateurs disent, oh, oui, mais bon, tu sais, ça va, quoi. Enfin, ça reste plus un délire de comédienne, alors que là, c'est un truc qui se joue presque ensemble, tous les deux. Je trouvais ça à la fois drôle et à la fois pas drôle, parce que, du coup, surtout moi, je me suis retrouvée avec la contrainte dans un décor blanc. Elle était assise devant une fenêtre. De voir la faire blanche alors qu'elle est à contre-jour et que normalement, elle va être plutôt sombre, quoi. Donc au début, je leur ai dit, mais attendez, ça va être compliqué, hein, parce que vu le dispositif qu'on choisit, si elle est assise devant la fenêtre, ça sera pas blanche, quoi. Mais c'est pas ce dont j'ai souffert le plus, en tout cas, on va dire, hein. Je trouve que ce qui était le plus compliqué, c'était de tourner dans un décor unique, sans vraiment comprendre la langue, même si je savais les scènes qui tournaient, parce que j'avais le texte en français. Mais... Et puis voilà, puis caméra fixe, on changeait de décor, c'était pas très... Je pense qu'eux sont plus amusés que moi, parce qu'eux, ils avaient vraiment les comédiens, le jeu des acteurs, toute l'histoire à raconter. Pour moi, j'ai moins ça, quoi.
Avec Prendre femme, Les 7 jours et Get, le procès de Vivian M'Salem, Ronit El-Kabet prolonge son engagement social et féministe en réalisant une trilogie autobiographique avec son frère Shlomi, centrée sur le personnage d'une femme inspirée de leur propre mère.
Elle a vu le film. Elle n'a pas arrêté de pleurer pendant 3 jours. Au premier moment, elle était étouffée. Elle avait peur, beaucoup. Elle sentit qu'elle ne peut pas sortir et rencontrer les gens. Mais très très vite, les gens, le temps, le nombre de femmes qui ont venu envers elle pour lui dire « c'est mon histoire Myriam, elle s'appelle Myriam, c'est mon histoire », que du coup elle s'est sentie libérée de quelque chose et ça lui a donné d'une libération, elle est devenue une autre femme, quoi. Ça lui a marqué, ce film, beaucoup beaucoup. D'ailleurs, mon père n'a pas encore vu le film. On est un peu peur à lui montrer. Et comme il nous aide pas, c'est-à-dire il veut pas jamais veiller, il est religieux, il veut pas aller au cinéma. On est toujours peur quand il ouvre la télé, peut-être il va tomber sur ça. Mais en même temps, je crois qu'il va s'amuser beaucoup parce que on fait beaucoup l'honneur aussi à lui aussi. C'est-à-dire, il n'y a pas de coupable dans ce film. C'est des sacrifiés de la vie, de mariage. On les aime tous, les deux. Ils le savent. Non, mais c'était une période très spéciale et très fragile aussi, quand même, en Israël, pour mes parents, ma mère surtout.
Nous, enfin, en lisant leur scénario, j'ai beaucoup pensé à Molière. Enfin, on a beaucoup parlé avec Marie Asmontaille, mon associée avec qui on a produit ce film-là.
Sandrine Brouwer, productrice.
C'est-à-dire que le film est profondément ancré dans cette réalité, dans cette communauté dans laquelle ils se sont vraiment inspirés.
Que raconte ce film ?
Viviane et Elisha sont mariés depuis longtemps, trop longtemps visiblement, et Viviane veut obtenir le divorce. En sachant que le divorce en Israël n'existe pas au sens du droit civil en France, le divorce ne peut se manifester que sous forme de répudiation. Donc son mari a les pleins pouvoirs, ce qui est une injustice d'ailleurs, parce que s'il n'avait pas ce plein pouvoir, il ne pourrait pas être tenté de l'exercer. Donc on a Viviane qui rêve, qui veut avoir une séparation en bonne et due forme de son mari, et un mari qui a ce pouvoir exorbitant entre les mains, qui ne sait pas quoi en faire. Après, il y a des interprétations. Il y a beaucoup de communautés juives, notamment des communautés libérales, dans lesquelles le mariage prévoit la possibilité que la dissolution se passe comme ci ou comme ça. Donc c'est aussi une interprétation de la loi de se retrouver dans cette situation-là. Ce n'est pas une fatalité.
Je pense que Shlomi et Ronit étaient très...
Édouard Ventrop, délégué de la quinzaine des réalisateurs.
Intéressé par l'influence de la politique sur la sphère privée. Et que même plus exactement ça, c'est la révélation dans le privé du politique. Et je pense que de ce côté-là, ils ont pris très vite le bon biais. C'est-à-dire avec Pondre Femme, ensuite en s'occupant du deuil. Alors là, il y avait aussi un aspect peut-être plus revendicatif, séfarade, même juif oriental, c'est-à-dire que la manière sans doute de faire deuil dans la communauté orientale n'est pas la même que dans la communauté ashkénaze, surtout sioniste. Et puis troisièmement, donc le divorce qui me semble le plus fort encore, parce que là, l'inégalité, elle est absolue, radicale et totale. Et dans le film, quand même, c'est extraordinairement bien exposé. Et donc, ça me semble un film extraordinairement politique, alors qu'au départ, ce n'est qu'une affaire presque sentimentale, personnelle, avec une radicalisation du point de vue de Viviane Amsalem pendant toute la durée du film. On voit à quel point, tout en ayant depuis le début cette volonté ferme de reprendre son indépendance, elle comprend peu à peu tout ce que ça implique, et nous avec. C'est-à-dire, c'est tout ce que ça soulève ensuite comme relation entre hommes et femmes, et encore une fois, plus que tout, cette inégalité, parce qu'on pourrait se dire, bon, ne plus, ça ne suffit pas de plus aimer, l'homme et la femme sont dans ces cas-là égaux. Ça serait mais là, pas du tout, c'est que l'homme peut se permettre d'empêcher donc la femme de s'en aller alors qu'il n'y a plus de vie en commun. Et je crois que de ce côté-là, c'est très très intéressant pour tous les gens qui croient qu'Israël est un État laïque, il y en a encore qui le croient, et puis pour tous ceux qui pensent que la religion juive est très différente des autres, ce qui est peut-être vrai dans certains aspects, mais en tout cas pas dans celui du rapport entre l'homme et la femme.
Tu peux lui proposer de se détendre, que tu le trouves tendu, qu'il est tendu, et qu'il faut que, voilà, qu'il respire normalement quand il parle, que tu le sens tendu, et que voilà, et simplement, c'est facile, c'est pas si difficile de respirer calmement.
Et je lui dis, on est d'accord, mais j'invente un truc.
Oui, c'est pas un je sais bien que c'est pas à Carlo que tu parles.
Voilà,
ben, c'est ça. Tu lui dis ça, respire.
Pas à Carlo, bien sûr.
À Michel.
Pas
à Carlo, mais à Michel.
Même pas à Michel, je crois pas qu'il...
Mais si, tu peux lui dire ça, Michel.
C'est-à-dire que vraiment, je pense ça, d'accord, ok. Bah, je pense qu'il est tendu.
Tendu, qu'il est tendu et qu'il est... voilà. Détends-toi, je te sens tendu. Respire, tu vois, ça va, c'est pas difficile, c'est rien, c'est... C'est une répétition.
D'accord.
Tu vois, voilà, voilà.
Voilà, j'espère de ne pas faire de...
D'accord. Ok. Et j'avais beaucoup de difficultés à rencontrer une actrice française, mais à rencontrer, je veux dire, dans mon imaginaire, une actrice française à laquelle je pouvais, moi, m'identifier. C'était, je n'y arrivais pas. Et c'est quand j'ai vu Ronit au cinéma. Mais c'était comme une évidence. Voilà, elle m'est apparue. Évidemment, c'est elle. C'est elle.
Je l'aime tellement, cette femme. C'était l'amour, c'est on peut parler du matin au soir sans arrêt, mais on peut rien dire aussi à la fois, et ça exprime tout, parce que c'est l'amour, quoi. Je l'aime comme elle est, telle qu'elle est, avec c'est son énergie, c'est sa générosité, le fait qu'elle m'aime comme elle m'aime aussi. Je suis attirée par cet amour aussi. Et cette audace audacieuse d'aller travailler aux prisons, de mener cette vie. En fait, ce que j'aime dans Barbara, en fait, si on arrive à parler de cette personnage qui est bien inspirée d'elle-même, c'est que elle y va là-bas pour dans un endroit totalement obscurité, mais c'est là-bas qu'elle trouve la plus grande lumière de sa vie. En fait, j'ai toujours été attirée par la création qui est tirée avec les gens qui se trouvent aux marges de la société.
Et j'ai eu une opposition une fois avec elle. Ça s'est vraiment mal passé un jour pour une question absolument débile de lumière. Voilà, elle n'était pas placée à l'endroit où elle voulait être placée. Pour autant, pendant qu'on avait répété, c'est-à-dire mis en place la séquence, tout, c'était comme ça, il n'y avait pas à discuter, on avait dit comme ça. Et au moment de tourner, elle dit non. Non, je n'ai pas la bonne lumière qui vient là où ça doit venir. Et j'ai dit, ça sera comme ça et ça ne sera pas autrement. Et donc, on s'est vraiment fâchés toutes les deux. J'étais très, très en colère et j'ai dit, on fait comme ça ou alors on ne fait carrément pas la scène. On a arrêté de tourner pendant à peu près une heure,
On s'est calmé, on lui a remis un truc pour qu'elle elle ait un peu plus de lumière que parce qu'elle considère qu'elle n'avait pas, elle avait pas la bonne lumière. Et puis on a tourné. Mais c'est vrai que les murs ont failli tomber là du café où on était, quoi. C'est vrai, ça crie. Elle criait d'ailleurs. C'est quelqu'un qui crie. C'est quelqu'un qui a une rage au fond d'elle, qui avait une rage, c'est vrai. Ouais. Pas dire le contraire. Quand on regarde Prendre Femme, on est sidéré par la rage de ce personnage. Ah bah ça, c'est le moins qu'on puisse dire, oui.
Et puis Barbara, et puis dans
Guette aussi, enfin c'est... Bien sûr, oui. Barbara, c'est pas pareil, parce que... Barbara, c'est pas un cri, c'est une espèce de déterminisme viscéral.
C'est un peu Ronit, quand même.
Ah bah c'est un peu Ronit, oui, c'est vrai.
Ronit El-Kabet, ça a complètement bouleversé cette représentation à la fois de la femme et de la sexualité. Et le film qui a marqué une date, c'est Mariage tardif. Mariage tardif qui décrit une liaison entre Ronit El-Kabet, donc une femme d'origine séfarade, et un homme d'origine géorgienne, dont la famille s'oppose à cette liaison. Mais dans le film, la passion, les désirs amoureux, la sexualité est présentée comme une forme de force animale capable de transgresser les barrières socio-économiques, les traditions, la dimension communautaire de la société israélienne. Mais dans ce film-là, c'est une sexualité crue, frontale, et pour la première fois, la femme est un sujet et n'est pas un objet. Elle est extrêmement active dans sa manière d'agir vis-à-vis de son partenaire sexuel. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu auparavant en Israël. Je me souviens du choc que le film a créé en Israël. Elle a participé, sans aucun doute, au processus des désinhibitions du cinéma israélien. Elle était extrêmement transgressive parfois dans son choix de rôles. C'était pas un féminisme qui refusait la représentation sexuelle ou érotique de la femme. Non, elle pensait toujours que la sexualité était une force. Une force naturelle, mais aussi une force qui peut devenir un instrument politique. S'il n'y a pas une esthétique féminine, s'il n'y a pas une sensibilité féminine, je suis sûr en moi qu'il y a un regard féminin. Et ce regard est aussi un regard politique quand il s'agit d'un pays comme Israël, qui est un pays ayant mythifié la virilité, ayant mythifié l'armée, dans un pays qui, pendant de longues années, a marginalisé les autres qui n'ont pas collé à ces modèles de l'Israélien viril, combattant, soldat, conquérant, comme l'homosexuel, comme les Palestiniens, comme les Juifs de la diaspora, ou comme les femmes, faire des films par des femmes aujourd'hui en Israël, faire des films autour des personnages féminins, ce sont forcément des films politiques.
Je pense qu'un des impacts du cinéma de Ronit ou de son approche, de son travail, ça a été quand même d'essaimer ce sens de la liberté auprès des artistes. Et je pense notamment au film de Maïsaloun Khamoun, qui est cette réalisatrice palestinienne qui a fait un film qui s'appelle en arabe Barbachar In Between en anglais et qu'en France on a appelé Je danserai si je veux. Je pense que Maïsaloun, en tant que citoyenne israélienne, elle a un passeport israélien, mais elle est palestinienne. Cette place-là est une place qui est assez invisible et qu'on ne voit pas. Et je pense que l'autorisation que Maïsaloun s'est donnée d'aller raconter cette jeunesse, cette vie de jeune femme dans une ville qui est Tel Aviv, où elles sont finalement des Palestiniennes au milieu d'une ville israélienne, la liberté de se dire « je vais raconter cette histoire à ma façon », et d'ailleurs dans le film on n'en parle que arabe, cette radicalité et ce spectre-là de la société israélienne, je pense qu'elle s'est autorisée aussi à le raconter parce que elle a eu l'exemple de Ronit Elkabetz qui a créé un sillon qui était de raconter une société qu'on ne voyait pas.
Je pense que Ronit adorait être actrice. Et que comme elle avait cette grande intelligence, puis ce lien avec son frère, quand elle m'a raconté ça, quelquefois elle me disait de retomber sur mes pieds parce que je la regardais comme la Madone, parce que travailler avec son frère, je trouve ça un cadeau du ciel. Et elle comprenait même pas pourquoi je lui posais des questions là-dessus.
Pour beaucoup de gens, la mort de Ronit Elkabetz était un choc. On n'était absolument pas préparés. Et ça soulevait une vague d'émotions incroyables en Israël. Incroyable. Les gens étaient absolument pris par un sentiment généralisé de chagrin et de perte. Tellement elle était populaire et tellement elle parvenait à toucher les gens de tous les milieux. Et cette vague émotionnelle qui a traversé la société israélienne après sa mort était pratiquement sans précédent pour une personnalité du monde de la culture. Et le seul événement de cet ordre dont je me souviens, moi, c'est ce qui est arrivé en Israël après l'assassinat d'Yitzhak Rabin.
Quelle image j'ai gardée d'elle? Je regardais l'image qu'elle a dans le film, c'est-à-dire les cheveux noirs, le visage blanc, en plus tout le film est quasi en noir et blanc. Je me souviens qu'on avait regardé, par exemple, le procès de Jeanne d'Arc, là. Parce que... Et en plus, Ronit, elle joue comme ça, quoi. C'est-à-dire qu'elle, dans son jeu, elle a un truc pas très moderne et très, justement, un peu...
Théâtral,
vraiment. Mais qui passe bien avec elle. Si on regarde Jeanne d'Arc de Dreyer, là, et qu'on la voit qui fait comme ça, je pense que Ronit, elle faisait un petit peu pareil, et en fait, c'est bien. Donc, ouais, moi, j'ai gardé cette image un peu, elle, en noir et blanc, dans ce décor tout noir et blanc.
Son regard, quelque chose... Oui. Comment elle vous regardait? Et comment elle regardait la vie, comment elle se moquait, comment elle riait, comment elle devenait forte. Je me rappelle à Cannes, ou peut-être par timidité, toutes les deux, on se moquait. Et en même temps, on jouait le jeu. C'est ça que j'aime, cette double personnalité qu'on a de se montrer comme si rien n'avait d'importance, alors que tout peut faire mal, ou que... tout vous blesse alors qu'on a l'air légère. J'entends sa voix aussi. J'entends son rire. Et justement, sa mort, c'était que... Tu crois pas. Faudrait faire très attention, tout le temps. Vous savez, quand on est y a des gens, on est tellement sûr de les revoir tout le temps. Et puis...
C'était Ronit Elkabetz, une actrice à vif. Merci à Sandrine Brouwer, Edouard Van Trop, Brigitte Si, Ariel Schweitzer, Fanny Ardant, Jeanne Lapoiry et Karen Yedaya. Merci à Elsevier Film, en compagnie d'Elama et Deux Beaux Garçons Film Production. Merci également à Yori Aviran. Extrait de film Témoignage de Shlomi Elkabetz. Get, le procès de Vivian Amsalem de Ronit et Shlomi Elkabetz. La visite de la fanfare de Eran Kolirin, extrait du clip Eddie King de Guy Dida et Mon trésor de Karen Yedaya. Prise de son Jean-André Giannuccini, mixage Alain Joubert, documentariste Tina Stéphanie Place, avec la voix de Aurélia Petit. Attaché de production Claire Poinsignon, coordination Irène Emelianenko, un documentaire de Johanna Bedeau et Nathalie Battus.
Cette émission est disponible en podcast et réécoute sur le site de France Culture. Dans quelques instants, rendez-vous avec Étienne Klein pour la conversation scientifique. Samedi prochain, Une vie, une œuvre sera consacrée au producteur et compositeur Pierre Barou.